Bonjour Marie-Axelle Clermont, Clémentine Le Guern, Camille Canard. Merci d'être avec nous toutes les trois pour nous présenter ce livre et nous raconter un petit peu ce que vous avez, voilà, ce que vous avez pu vivre, votre vie.
Bonjour Sandrine.
Bonjour Sandrine.
Voilà, alors est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs?
Oui, alors je vais commencer. Donc, moi, je suis Camille Canard. Je suis la maman de 5 enfants, dont notre fils aîné Auguste, qui est décédé en décembre 2009, à l'âge de 5 mois. Il est décédé de la mort suivie du nourrisson chez sa nounou, à 3 jours de Noël. Et voilà, avec Clémentine Le Guern et Marie-Axelle Clermont, nous avons coécrit un livre à la vie et à l'amour, aux éditions d'Emmanuel. Il relate nos 3 expériences de deuil de nos enfants, nos 3 chemins de vie pour se reconstruire et surmonter la perte de nos enfants.
Merci.
Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Axelle Clermont, je suis maman de 4 enfants. Je suis mariée avec Benoît depuis une grosse quinzaine d'années et nous témoignons ce matin parce que nous avons perdu notre fils, notre dernier fils, Gaspard, le 1er février 2017, d'une grave maladie génétique rare et incurable.
Merci.
Voilà, et moi je m'appelle Clémentine Le Guern. J'ai 45 ans, je suis professeure des écoles dans une école parisienne, et j'ai 3 enfants, dont Siméon, le troisième, qui est mort il y a 6 ans d'un cancer. Il avait 3 ans. Voilà, j'ai rencontré Marie-Axelle par écran interposé, parce qu'elle est tombée par hasard sur un petit reportage auquel j'avais participé, un petit reportage télé où je témoignais un peu de mon histoire avec Siméon. Et moi, je suis tombée sur une photo de Gaspard sur les réseaux sociaux qui m'a fait complètement flasher parce que Gaspard, il ressemblait vraiment étrangement à mon Siméon, alors physiquement, et puis aussi parce qu'ils dégageaient tous les deux quelque chose de particulier, peut-être parce qu'ils étaient ils avaient déjà un pied au ciel, je sais pas. Donc on s'est rencontrés à cette occasion, et puis Marie-Axelle et Camille m'ont proposé quelque temps après de témoigner toutes les trois de nos histoires, et j'ai sauté sur l'occasion. Trop contente de pouvoir parler de mon petit garçon, de pouvoir fixer dans ma mémoire sa vie et puis réfléchir, me poser pour réfléchir au chemin que j'avais parcouru en tant que maman endeuillée. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par Marie-Axelle qui va donner en premier son témoignage.
Oui, merci à tous les auditeurs de nous écouter. Ce n'est pas un sujet facile. Merci de rester avec nous et de nous soutenir par votre prière et vos pensées. Effectivement, nous témoignons ce matin sur Radio Maria. Merci à vous de nous faire confiance. Merci Sandrine. Je témoigne aujourd'hui de la mort de Gaspard, donc notre 4e enfant. Qui est décédé le 1er février 2017. Gaspard est mort dans mes bras. Et je remercie Marie, la Sainte Vierge, de m'avoir exaucée parce que j'avais longtemps demandé, pendant sa maladie qui a duré presque 3 ans, de me donner la possibilité que Gaspard meure un jour ou les années suivantes, lorsqu'il ne serait plus avec moi, je pourrais être consolée. Et Gaspard est décédé donc à 18h15 le 1er février, donc lors de la vigile de la présentation de Jésus au temple. Et j'ai appris par la suite, grâce à des religieuses, que Gaspard était aussi décédé ce jour-là et que c'était effectivement une fête mariale puisque c'était la purification de Marie. Je ne l'ai su que plus tard, alors que de tout mon cœur, j'espérais vraiment que Gaspard décède un jour où Marie était célébrée. Ce qui m'assurait dans mon cœur de maman de sa présence au ciel. Comme je porte aussi le prénom de Marie, j'ai une grande admiration pour elle, une grande adoration pour la Sainte Vierge, et je la remercie de tout mon cœur de m'avoir exaucée, que Dieu m'ait exaucée ce jour de la présentation de Jésus au temple. Lorsque Gaspard est décédé, nous avions donc 3 enfants aînés, assez jeunes, puisque l'aîné avait tout simplement 11 ans. Et nous avons décidé d'inclure nos enfants dans les démarches de la messe d'enciellement, de l'enterrement, aussi effectivement de la mise en bière. Toutes ces décisions en fait ont été conjointement prises avec, avec mon mari Benoît. Nous avions envie que nos enfants participent à tous ces moments-là, aussi parce que j'avais réalisé quelque temps auparavant que les enfants de notre époque sont très rarement inclus dans ces démarches liées au décès d'un proche. Et j'avais envie en fait d'apporter une vérité à mes enfants. J'avais envie qu'ils soient inclus dans ces moments de leur histoire. Et effectivement, nous avons choisi d'appréhender la mort avec notre fratrie afin de leur offrir cette vérité que nous pensions essentielle pour leur éducation. Ensuite, lorsque toutes ces étapes liées à la mort de Gaspard se sont terminées, je crois que mon cœur a été, mon cœur de maman, mon cœur de femme a été comme anesthésié, très choqué. Je ne ressentais plus la joie, je ne ressentais plus la peine. Les larmes glissaient sur mes joues et les larmes glissaient aussi dans mon cœur lorsque les gens ne pouvaient pas les voir, en tout cas de manière très visible. Mais je n'arrivais plus à expérimenter le fait d'être heureuse ou le fait d'être malheureuse. Je crois que mon cœur était glacé en fait par ce choc subi par la violence du décès de mon fils, même si j'y étais préparée parce que je savais que Gaspard était gravement malade, je savais que Gaspard allait mourir, mais le jour même de sa mort, c'est comme si je n'y avais pas été préparée. Je crois qu'on n'est jamais finalement prêt à la mort d'un être aimé. Donc je me suis posé cette question vraiment, est-ce que je peux de nouveau expérimenter la joie, est-ce que un jour je serai de nouveau heureuse? Gaspard était en moi, je le sentais véritablement, je sentais que mon cœur était très porté, je sentais que mon cœur aussi était presque soulevé, comme si deux mains portaient mon cœur. C'est une impression très étrange, très difficile aussi à vous expliquer et à vous partager, mais je sentais mon cœur comme sous-pesé par deux mains qui portaient mon cœur pendant cette anesthésie, pendant ce choc. Et on me demande souvent qu'est-ce qui t'a aidé, qu'est-ce qui t'a porté lorsque Gaspard est décédé. Et je crois que je ne serais pas très capable de distinguer des personnes qui m'ont véritablement porté, parce que je crois que toute la chaîne d'amour et toute la chaîne d'amitié que j'ai ressentie autour du décès de mon enfant a été pour moi d'un grand secours. Et ce que j'ai apprécié, c'était vraiment cette capacité qu'ont les gens de, par des petites actions, de me soutenir, d'avoir énormément de compassion pour moi, d'avoir un certain réconfort. Alors ça allait par exemple voilà, d'un bouquet de fleurs offert sur mon paillasson, d'un gâteau apporté par une famille amie, d'une de mes filleules que j'ai accompagnée dans le sacrement de confirmation qui m'invitait à aller au marché avec moi le samedi matin. Ça a été des petites choses comme ça, mis bout à bout, qui m'ont aidée à me reconstruire et qui m'ont apporté cette possibilité de pouvoir de nouveau expérimenter la joie et de nouveau expérimenter l'amour et l'amitié. Ce sont des sujets dont je parle beaucoup dans mon livre. Je parle beaucoup de la joie, je parle beaucoup de l'amitié, je parle de la souffrance aussi. Et je vous parle de cette question fondamentale qui pour moi m'a vraiment beaucoup bouleversée. C'est cette question-là. Où est passé Dieu? Et il y a-t-il un Dieu? Donc j'en parle au chapitre 7 de notre livre, dans le chapitre relié au ciel. Et j'aimerais bien vous lire un petit passage, si vous me permettez, justement de cette question qu'on se pose tous, parce que la question de la souffrance et du décès est quand même véritablement insoluble. Donc j'y apporte dans ce livre un tout petit peu de début de réponse. Y a-t-il un Dieu? Lorsqu'un être cher meurt, il est bien légitime de tourner et de retourner la question dans sa tête. Ne serait-ce que parce qu'on se demande naturellement où va l'âme du disparu. Certains auront une réponse bien cadrée à apporter, d'autres hésiteront ou ne sauront pas. Je vous confie que pour ma part, je crois en Dieu. Dieu qui a accueilli l'âme de mon enfant à son décès. Pourquoi croire en lui? Sans doute parce qu'il est bien plus commode pour moi de savoir l'âme de Gaspard au ciel avec Dieu, plutôt que de l'imaginer dans un autre deux mondes, ou bien encore dans une sorte d'antiterre trop hypothétique pour moi. Je crois que Dieu résume l'amour Il est amour, il le définit, l'exprime à son paroxysme. J'aime me dire et m'imaginer que Gaspard est dans cette définition, au cœur de l'amour, plein, entier, vrai et pur. Et ensuite, nous continuons donc toutes les trois à témoigner de la place de Dieu dans nos vies et de ce pourquoi, de ce comment, de toutes ces questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse, nous, sur la Terre. Aujourd'hui, je crois que je peux dire que je vais bien et je peux affirmer que je suis de nouveau heureuse, même si je sais que le chemin est encore long. Il reste cependant un glaive planté dans mon cœur, un glaive qui est souvent au repos, mais qui parfois, surtout lorsque les dates anniversaires approchent, me tourmente et tourne boule, si je peux exprimer ce sentiment par ce verbe, dans mon cœur. Je suis une mère qui aura mal, qui sera en manque de mon enfant pour toute ma vie sur Terre, et je crois que c'est la plus grande claque que j'ai dû réaliser après le décès de Gaspard. J'ai dû en fait accepter et dire oui à cette souffrance, dire oui aussi au fait que ce glaive existe dans mon cœur. J'essaye de l'appréhender, j'essaye de me le personnaliser, j'essaye de l'apprivoiser. J'essaye d'apprivoiser cette douleur, parce que je crois que le plus horrible, en fait, c'est de savoir que nous sommes, nous, mamans endeuillées, condamnées pour tous les jours qui nous restent à vivre sur la Terre. Et en fait, seule ma propre mort, donc ça c'est une compréhension que j'ai eue très récemment, seule ma propre mort me libérera et me permettra de retrouver mon fils au ciel. Pour cela, il y a quand même une condition. La condition, c'est que j'accède au paradis. Donc c'est dur. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur la Terre pour qu'on accède au paradis et que l'âme, mon âme en fait, de maman, retrouve l'âme de tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qu'on a aimés, et donc retrouve l'âme de mon fils aîné. Et là, je vous donne une petite clé. Je me suis imposée à moi-même la règle des 3 B, donc que j'expose aussi dans mon livre et que je détaille précisément. Cette règle des 3 B, je me la suis trouvée au moment où mes enfants regardaient le dessin animé « Moi, moche et méchant ». Et j'ai eu envie de transformer en fait ces 3 M, moi, moche, méchant, en 3 B, donc le bien, le beau et le bon. Et c'est une petite règle personnelle, voilà, que je vous offre, que je vous transmets. Et je crois qu'en vivant les événements de manière belle, bonne, je peux expérimenter cette possibilité de pouvoir accéder au paradis. Voilà, c'est ce que je me suis personnellement mis comme garde-fou pour espérer de tout mon cœur retrouver l'âme de mon fils au ciel. Et j'ouvre ce témoignage, cette possibilité que Radio Maria nous offre pour vous parler du décès et du deuil d'un être aimé, ce deuil aussi d'enfants autour de la périnatalité. Je l'ouvre aussi donc sur ce livre que nous avons coécrit avec Clémentine et Camille. Nous avons vraiment voulu vous apporter nos clés, nos compréhensions de l'épreuve et cette possibilité que nous avons d'avoir des toutes petites choses qu'entre parents endeuillés, nous pouvons nous transmettre. Comme en fait une grande chaîne humaine où nous pourrions nous donner des clés pour croire de nouveau, espérer en la vie, aimer l'amour aussi. Et là, la dernière des solutions que j'ai trouvée donc il y a à peine un trimestre, c'est de créer sur Rennes, puisque nous sommes bretons en ce moment, de créer sur Rennes un groupe de cœurs de mamans endeuillées, justement qui pourrait apporter une libération de la parole. Et donc, je crée un de ces groupes à Rennes. Et je vous encourage vraiment à ne pas rester seule. Voilà pour ma partie, voilà pour tout ce que j'avais à vous dire ce matin.
Merci Marie-Axelle pour ce très beau et courageux témoignage. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons écouter Clémentine et son témoignage.
Oui. Oui, alors moi, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la vie de Siméon et puis je vais essayer de rendre compte de la fécondité de sa vie terrestre et au ciel. Voilà, alors Siméon, c'est notre troisième enfant. Il est né après Alice et Valentin, qui sont deux enfants très, très rapprochés. Il est arrivé 4 ans après. Voilà, alors c'était un petit bébé adorable, très, très facile, dont j'étais vraiment totalement fan. Et malheureusement, à l'âge de 8 mois, je l'ai emmené un jour aux urgences parce que il avait un pleur qui m'inspirait pas beaucoup. Bon, je l'ai emmené aux urgences et on a trouvé qu'il avait une tumeur au rein. Donc, il a fallu l'opérer, lui enlever son rein. On a analysé la tumeur et on s'est rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un cancer et d'un cancer très, très agressif qui nécessitait un an de traitement de chimiothérapie, radiothérapie. Donc on s'est lancé dans le combat, toute la famille. On a tout réorganisé dans nos vies pour que je puisse, moi, rester à ses côtés nuit et jour, que ce soit à la maison ou à l'hôpital. Et puis pour que je puisse aussi ne pas abandonner ses frères et sœurs qui étaient tout petits, ils avaient 5 et 6 ans. Voilà, donc on a passé une année comme ça, en mode combat. Donc je n'ai pas un très mauvais souvenir parce qu'on vivait en fait au jour le jour. On accueillait les petits bonheurs un par un et finalement notre Siméon, on sentait quand même heureux, bien que bien sûr il souffrait de tous les effets secondaires de la chimio. Et puis nous, on avait l'impression d'avancer vers un but qui était sa guérison. Donc c'était une année de parenthèse, mais qui n'a pas été plus éprouvante que ça. Voilà, au bout d'un an, il a pu faire tous ses traitements et donc on nous a annoncé qu'il était en rémission, donc renaissance pour la famille et on a pu tous reprendre une vie normale, mais mieux parce que on était plus heureux, en tout cas plus conscients de notre bonheur après avoir vécu une année difficile comme ça. Et puis on était plus soudés aussi. Voilà, et puis sinon on s'est mis à grandir, à beaucoup progresser et puis j'ai mis à rayonner. On était complètement en admiration devant lui. Il avait un charisme pas possible. Alors, c'est la maman qui parle. Je ne sais pas si c'était comme ça en réalité. Mais voilà, on avait... il était magnifique. Et puis, au bout d'un an, j'ai trouvé un peu trop fatiguée. J'ai avancé un contrôle qui était prévu quelques semaines plus tard. On est allé faire une radio, et puis on a vu qu'il avait des tumeurs au cerveau, donc il rechutait avec 3 tumeurs au cerveau, dont une très très grosse qui n'était pas opérable et contre laquelle on ne pouvait proposer aucun traitement. Et on nous a annoncé qu'il avait une espérance de vie de 2 à 3 semaines. Puis après, on nous a demandé si on voulait qu'il finisse sa vie à l'hôpital ou à la maison. On a choisi de rentrer à la maison avec lui. Et là a commencé la période de soins palliatifs. Voilà, mon mari a arrêté de travailler, moi aussi évidemment j'ai arrêté de travailler parce qu'on avait envie de pouvoir vivre ça à fond, ensemble, et puis pour pouvoir entourer au mieux Siméon et nos autres enfants. Et puis on avait décidé de se battre aussi, même si la médecine ne proposait rien pour notre enfant, nous on voulait quand même dépenser toute l'énergie qu'on avait à essayer de le faire aller mieux. Alors on a testé des médecines parallèles et puis on s'est tourné vers la prière. Ça, on pouvait encore le faire. Alors, en fait, quelques années après, il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que c'est pas nous qui nous sommes tournés vers la prière, hein, pas du tout. En fait, c'est Dieu qui est venu à nous parce qu'il nous a donné d'être entourés, mais magnifiquement, par des amis qui avaient une foi très, très profonde et qui nous ont vraiment communiqué leur espérance. Et puis, il y a eu des amis, mais il y a aussi plein d'inconnus qui sont venus à nous. Hein, on a fait... alors qu'on était coincé à la maison à s'occuper de Siméon, on a fait énormément de rencontres à ce moment-là. Et il y a des gens qui venaient chez nous pour prier. Des gens qui nous ont aidés à organiser pour Siméon tous ces sacrements. Pendant cette période, Siméon a reçu la confirmation. Il a fait sa première communion d'abord. Il a reçu le sacrement des malades. Voilà, et ça nous a donné une force incroyable. Déjà parce que on croyait qu'un miracle serait possible pour le guérir, et puis aussi parce que plus on priait, plus notre foi en la vie éternelle s'accroissait, et puis on était sûr que après sa mort, sa vie continuerait et que et qu'on serait toujours en lien. Voilà. Alors moi, j'avais déjà la foi. Hein, je pratiquais ma religion, mais ma foi, elle m'habitait pas vraiment. Elle était assez tiède. Et elle s'est vraiment accrue à ce moment-là. Et mon mari, par contre, lui, était athée. Il ne croyait pas du tout. Et il s'est mis sur un chemin de foi à ce moment-là. Voilà. Alors, dans les deux premiers mois de cette période, Siméon allait très bien. Il a déjoué tous les pronostics hein, parce qu'on lui avait donc donné 2-3 semaines à vivre. Et 2 mois après, il avait toujours à peine de symptômes. Donc, nous, on a un peu cru un miracle. Hein. À ce moment-là, on était vraiment dans le déni. C'était peut-être voilà, un moyen de survivre à la situation. Et puis, les symptômes sont apparus un par un. Et c'est très difficile à vivre parce que sinon, c'est une tumeur au cerveau. Donc, il a perdu ses facultés une à une. Toutes ses facultés, il ne pouvait plus bouger les mains, puis les bras, puis il ne pouvait plus marcher, puis il est devenu aveugle. Voilà, puis au bout de quelques temps, il était comme un nouveau-né hein, qui était dans mes bras, qui ne pouvait tenir que dans mes bras. Et, on partageait encore l'essentiel avec lui, parce que vraiment, moi j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il n'était plus qu'amour. Il ne s'exprimait plus du tout, mais il envoyait encore des bisous avec sa bouche. C'est la seule chose qu'il pouvait faire, c'est envoyer des bisous. Et puis, on avait la communication entre nous était vraiment intense. Donc il s'est endormi petit à petit. Et avant qu'il s'endorme complètement, on s'est mis d'accord avec lui pour décider d'un signe qu'il nous enverrait après sa mort pour nous manifester sa présence quand il serait au ciel. Et voilà, et bon, on n'a pas vraiment réussi à trancher, mais on s'est dit que ce serait autour d'un petit chat ou d'un petit oiseau. Voilà. Et puis, bon, un soir, voyant qu'il était épuisé, on lui a dit que tous les quatre, on est allés autour de lui, et puis on lui a dit qu'il pouvait partir, qu'on était prêts, ce qui n'était pas vrai du tout. Hein. Donc, comme Marie-Axelle l'a dit hein, tout à l'heure, on n'est jamais prêts. Et il est mort la nuit même dans notre lit. On l'avait couché entre nous deux. Cette nuit-là, puis voilà, il est mort au milieu de la nuit. Bon, après, il y a eu cette période dont Marie-Axelle parlait tout à l'heure, hein, où on est complètement sous le choc, complètement assommé, anesthésié, où on a l'impression d'être sorti de son corps. Mais on est en même temps très actif parce qu'il faut préparer l'enterrement, la messe, et tout ça. Et puis, puis après, chacun retourne à sa vie et la vie reprend un cours normal pour l'entourage et on est bien obligé de se retrouver seul à affronter sa douleur. Alors pour moi, ça a été vraiment la privation de la chair de mon enfant qui a été le plus dur, hein, parce que vraiment, à la fin, on ne faisait plus qu'un, comme si, si on était une seule et même personne. Et là, j'ai vraiment senti le danger de sombrer, en fait, hein, de mourir avec lui. J'ai pris la décision, en fait, qu'il fallait que je reste dans la vie et qu'il fallait que je retrouve le bonheur, parce que j'avais quand même 2 autres enfants qui étaient très petits et qui méritaient bien ça. Voilà, donc il y a eu cette décision. Alors, dans les premiers temps, moi, je me suis vraiment épuisée à vouloir à tout prix garder le lien physique avec mon Siméon. Alors, j'étais vraiment terrorisée d'oublier son visage, son odeur, sa voix. J'ai collecté toutes les photos que j'avais, tous les objets qui lui appartenaient. J'ai mis ça dans une boîte que j'allais voir, que j'ouvrais tout le temps. Et puis, je vénérais un peu les objets qui étaient. Et puis, en fait, progressivement, j'ai compris que ce n'était pas la peine de lutter et qu'il fallait que j'intègre que le lien physique entre nous était rompu. J'ai laissé, Siméon habiter ma vie autrement et j'ai laissé un lien intérieur plutôt se créer entre lui et moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'apaiser et vraiment à sentir sa présence en moi et à m'ouvrir aussi aux petits signes qui pouvait nous envoyer pour nous manifester sa présence. Voilà, et puis là, je peux dire, 6 ans après, il est toujours en moi, hein, Siméon, il fait partie de ma vie différemment que ses frères et sœurs, mais pas moins que mes autres enfants. Il habite encore mes pensées, mes actes. C'est mon enfant à part entière et je suis encore complètement sa maman. Voilà, bon, alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je ne vais pas vous dire que je ne souffre pas, hein, je souffre énormément, mais on me manque horriblement et je pleure encore vraiment régulièrement. J'ai une blessure que je garderai toujours. Mais vraiment, il vit en moi, il vit en moi. Et je crois qu'il me rend plus forte. Il me rend plus forte parce que cet amour qui reste vraiment intact, ben, j'ai envie de le transformer en énergie. Ça me donne une certaine énergie pour accomplir de belles choses en son nom. Parce que j'ai envie de continuer à le faire vivre à travers moi. Et puis cet amour que j'ai encore, il me donne envie aussi de continuer à me surpasser pour lui, comme je l'ai fait quand de son vivant. Hein, il a bien fallu se surpasser pour l'accompagner dans la maladie. Voilà. Et puis cet amour, il m'a aussi donné envie de me rapprocher du ciel et à donner à ma vie une dimension d'éternité. En fait, ce que je veux vraiment témoigner ce matin, c'est que la mort de notre enfant, tout en étant une tragédie pour notre famille, en nous bousculant, le mot est vraiment faible, hein, quand je dis que ça nous a bousculés, ça nous oblige quand même à remettre à plat toutes nos certitudes. Et de quelque sorte, ça nous oblige à nous révéler à nous-mêmes et puis à renaître de nos cendres. Et j'ai l'impression que notre vie, elle est plus riche. Elle est plus riche, en fait, de cette épreuve. Si vous voulez bien, je vous lirai bien un passage du livre qui exprime ma gratitude d'être la maman de Siméon.
Avec joie.
Lettre à Siméon. Merci, mon amour, d'avoir été mon enfant 3 années sur cette terre. La vie nous a séparés, mais ne m'a pas privé de l'amour que je te porte. Et rien ne pourra m'enlever ce que nous avons vécu ensemble. Merci pour ta tendresse, tes câlins, ta sagesse. Merci pour notre complicité. Quelquefois, j'arrive à me réjouir de ces moments de grande qualité que nous avons passés ensemble, plutôt que de pleurer tous ceux que nous ne vivrons pas. Merci de nous avoir transformés. Tu nous as fait comprendre que l'essentiel était l'amour. Grâce à lui, c'est grâce à lui que nous avons pu nous surpasser pour te donner le meilleur. Grâce à notre amour pour Alice et Valentin, nous avons eu envie de nous relever. Nous sommes tous les quatre devenus plus forts et plus fragiles à la fois. Ta mort nous a détruits. Il a donc fallu renaître à nous-mêmes. Jean Sullivan a écrit « Ne craignez pas pour ceux que vous laissez. Votre mort, en les blessant, va les mettre au monde. » Je vois cette transformation sur ton papa, ton frère et ta sœur. Alice et Valentin font toute mon admiration. Alice sait voir ce qui est beau en chacun et en toutes circonstances. Valentin est heureux de tout. Tous deux sont très complices et extrêmement soudés. Ils savent se réjouir de choses toutes simples et sont capables d'exprimer leur enthousiasme sans pudeur. Je les admire pour leur clairvoyance et ce qui est Je les admire pour leur clairvoyance sur ce qui est futile ou important. Tous deux se tournent naturellement vers les plus faibles. Je suis émerveillée de voir à quel point ton papa a su transformer sa souffrance en force de vie. Il s'est servi de sa douleur pour remettre sa vie en question et lui donner un sens. Sa vie a pris une dimension d'éternité où l'amour prend une vraie place. C'est un homme plus confiant, plus optimiste et beaucoup plus tourné vers les autres. Il s'est mis en recherche et ne cesse de progresser vers la sainteté. Je n'ai pas peur de dire que grâce à toi, il a maintenant accès à un bonheur différent. Le vrai bonheur, me semble-t-il. À tes côtés, mon Siméon, nous avons perçu que quand le corps s'éteint, l'amour subsiste, plus fort que jamais. Nous avons pu comprendre, à travers cet amour qui persiste malgré la mort, que l'autre vie commençait dès ici-bas. Nous te remercions pour ce cadeau qui donne à notre vie une dimension plus riche. Pour que cet amour pour toi porte du fruit, pour que tu puisses vivre sur cette terre à ta façon, pour que nous puissions continuer à être tes parents, nous avons envie d'accomplir de grandes et petites choses en ton nom. La douleur s'apprivoise et se transforme. Elle nous donne la force de nous surpasser pour être dignes de toi. Tu es notre présent et notre avenir. Guide nos pas sur ce chemin, mon ange. Jusqu'à nos retrouvailles. Voilà.
Merci Clémentine. C'était vraiment très très beau. Maintenant, il nous reste aussi le témoignage de Camille.
Oui. Alors moi, donc pour introduire mon témoignage, je vais commencer aussi par un extrait. Du livre que j'ai écrit, c'est « La lettre de celle que je suis à celle que j'étais le 21 décembre 2009. » Ce soir-là, il fait froid, très froid. Vos familles se sont réunies autour de vous. Tu te retrouves avec ton mari dans ton ancienne chambre de jeune fille chez tes parents, car il est impensable pour le moment de revenir dans votre appartement. Deux matelas posés à terre, Tu vas passer la nuit à pleurer en te demandant si tu n'es pas en plein cauchemar. Tu donnerais tout pour te réveiller de ce mauvais rêve. Bon sang, pourquoi est-ce à toi que cela arrive? Qu'as-tu fait d'horrible pour endurer toute cette souffrance? Tu te demandes bien comment on peut survivre après cela. Vas-tu réussir de nouveau à sourire, à rire, à être heureuse un jour? Pourquoi ton fils est-il mort? Et s'il avait été chez toi au lieu d'être chez sa nounou? Et si elle était allée le voir quelques minutes plus tôt? Et si? Il faut te lancer dans cette adversité que la vie te présente aujourd'hui. Tu n'as pas le choix. La vie est un combat, accepte-le. Je ne vais pas te mentir, cela va être dur, extrêmement dur. Tu vas devoir apprendre à vivre sans ton fils, avec ce manque. Tu vas devoir apprendre à faire toutes ces choses du quotidien sans lui. Tu vas devoir réapprendre la vie de couple sans enfant, toi qui connaissais la vie de couple avec un bébé, la vie de famille. Cette famille que tu as construite a éclaté aujourd'hui. Il te reste ton mari et toi-même. C'est tout. La vie est un défi, relève-le. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps jusqu'à avoir la sensation de ne plus avoir assez de larmes. Ce jour-là, tu te sentiras plus forte. Et puis, tu vas te surprendre à sourire et à rire. Alors, l'espace de quelques secondes, tu ressentiras comme une culpabilité. Mais je n'ai pas le droit de sourire et de rire alors que mon fils vient de mourir. Mais tu te raviseras. C'est si bon de rire. Cela fait tellement de bien. Il y aura même un jour où la futilité reviendra dans ton quotidien. Toi qui pensais que la futilité était réservée à ceux qui n'avaient pas connu de grands malheurs. Mais non. Cette futilité te ramènera d'ailleurs petit à petit, pas à pas dans la vraie vie. La vie est mystère, perce-le. Tu auras parfois l'impression qu'on oublie ton fils, mais sache que ce n'est pas le cas. Ton fils vit à travers toi désormais. Tu vas tomber et puis te relever. Tu auras de grandes joies, mais aussi de grandes peines, parfois, de moins en moins. Mais n'oublie jamais que tu seras sans cesse entouré et aimé, que chacune de ces petites victoires sur la vie sera un pas de plus vers la guérison de ton cœur. Un jour, tu serreras de nouveau un bébé dans tes bras, et puis un autre, et encore un autre. Et un autre jour encore, tu te sentiras apaisé de toutes ces blessures et de toutes ces peines, tellement apaisé. La vie est promesse, remplis-la. Mais ce soir de décembre 2009, tout est noir et tu ne crois plus en rien. Tu n'as pas envie d'entendre que le temps fait bien son œuvre et que tu seras de nouveau heureuse. Tout cela te paraît loin, si loin. J'aimerais tant te serrer dans mes bras pour te le certifier et te donner cet espoir, à toi, à moi, et à vous toutes, les mères endeuillées. La vie est bonheur, mérite-le. Si je vous ai lu cette lettre, c'est tout d'abord pour témoigner du chemin parcouru. Dans ce livre, je relate bien le chemin du deuil et les étapes, ses hauts, ses bas. Le 21 décembre 2009, le soir de la mort d'Auguste, nous avons prononcé avec mon mari ce oui à la vie, ce oui à la vie qui continue. Ce oui qui a été si vital dans notre reconstruction et que nous nous sommes souvent rappelés. Cette douleur, ce manque, le manque de Auguste, de notre enfant, nous les avons apprivoisés tous les deux, petit à petit, un pas après l'autre. Au début, je me souviens, je voulais aller plus vite que la musique, sauter des étapes. Mais je me suis vite rendu compte qu'on ne pouvait pas sauter les étapes d'un deuil. Pour surmonter le deuil, il fallait passer par toutes ces étapes qui sont le choc, la colère, la négociation, la dépression, l'acceptation. Nous avons dû apprendre à vivre sans notre enfant, apprendre à revoir nos amis, à refaire les petites choses de la vie, à être parent sans enfant. Et puis, petit à petit, la vie est revenue, les sourires, les rires. Nous avons eu la chance d'avoir 4 autres enfants après Auguste. Donc, on s'estime vraiment chanceux d'avoir eu cette chance de pouvoir agrandir notre famille, la vie qui continue. Comme disaient Marie-Axelle et Clémentine, il y a parfois des rappels, des dates anniversaires qui font mal. La douleur comme un petit pic, l'entrée, les années où l'enfant aurait dû rentrer en CP ou en 6e. Voilà. Encore une fois, il faut apprivoiser sa douleur, vivre avec elle. Je pourrais dire que je sens aussi mon fils en moi, il me porte, je sens sa présence quotidienne en moi. Je suis sûre qu'il veille sur nous, qu'il est vraiment fier du chemin parcouru. Je sens qu'il nous envoie sa force. Voilà, donc si on a écrit ce livre, tout d'abord, Moi, c'était vraiment pour laisser une trace d'Auguste à ses frères et sœurs qui sont tous nés après. Je voulais qu'ils aient vraiment une trace, qu'ils puissent lire vraiment notre histoire. Ils ont commencé un peu à la lire, mais pas tous, parce que quand même le livre n'est pas toujours évident. Ils ne sont pas encore très âgés. Voilà, je voulais laisser aussi une trace d'Auguste, trace de lui sur Terre, laisser une trace écrite, continuer à le faire vivre grâce à ce livre. Puis on s'est rendu compte que ce livre pouvait aider beaucoup de personnes ayant vécu ce drame ou ayant une personne dans leur entourage. On a eu l'impression que nos témoignages pouvaient être comme des petites graines d'espérance qu'on aurait semées autour de nous. Pour toutes les épreuves de la vie, pas forcément que pour les deuils. Donc voilà, si notre livre peut aider les personnes à surmonter une épreuve ou à aider leur entourage à surmonter cette épreuve, tant mieux. On est vraiment très contente de pouvoir semer ces petites graines d'espérance. Et pour conclure, si je suis heureuse aujourd'hui, c'est en partie grâce à ma famille, mon mari, les enfants qu'on a eus, mais aussi à cette force qu'Auguste m'envoie jour après jour. Je le sens vraiment en moi. Je sens sa présence, je sens qu'il nous envoie sa force, qu'il veille sur nous. Je suis fière d'être sa maman et tellement heureuse d'avoir pu le rencontrer, même si c'était si court. Voilà.
Merci en tout cas aussi à vous Camille pour ce très très beau témoignage. Alors on est déjà au terme de l'émission, on ne pourra pas faire un appel aux auditeurs. Mais en tout cas je voudrais vraiment rendre grâce, moi-même j'ai lu votre livre et j'ai été très très émue de toutes vos histoires, à toutes les trois qui avaient le courage de raconter ce qui s'est passé, le décalage terrible en vos souffrances très très fortes et la vie qui continue. Et il faut faire des choix, il faut avancer et vous avez le courage de raconter tout ça. Et je pense que ça va rejoindre beaucoup de personnes. Moi j'ai beaucoup pleuré dans votre livre avec vos témoignages parce que c'est difficile, c'est un parcours, c'est comme ça. Mais en même temps, vous avez su faire fructifier tout ça par vos familles, en continuant à faire effectivement chacune vous avez des missions particulières, vous témoignez de ce que vous avez vécu, vous allez pouvoir consoler d'autres mamans, d'autres familles, d'autres parents, d'autres frères et sœurs qui ont à vivre des deuils. En tout cas, merci pour ce très beau livre que vous avez pris le courage d'écrire. On va rappeler effectivement, donc ce livre c'est « À la vie, à l'amour, vivre après la mort d'un enfant ». Et donc vous le trouvez aux éditions Emmanuel. N'hésitez pas à aller le lire, il est très beau, n'hésitez pas à le faire lire aussi. En tout cas, merci à toutes les trois pour ce très très beau témoignage. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à nos auditeurs?
Alors, je voulais proposer aux auditeurs qui nous écoutent, s'il y a des parents qui sont concernés par le deuil d'un enfant. On organise avec mon mari une petite retraite justement pour les parents qui ont un enfant au ciel. Alors cette retraite, si tout va bien, elle aura lieu le week-end du 7, 8, 9 mai à Nouant-le-Fuselier, à la communauté des Béatitudes. Voilà, donc en fait le but de ce week-end, c'est de se retrouver entre parents endeuillés pour parler de notre espérance et pour se tourner vers la lumière ensemble. Voilà, puis se rencontrer, échanger. Voilà.
Merci.
Je voulais donner cette information si ça intéresse d'autres parents.
Bien sûr. Alors, qu'est-ce que... effectivement, et puis, rappeler à nos auditeurs que ce lien est très très beau avec votre enfant, effectivement, parti trop tôt au ciel, mais encore agissant, effectivement, au ciel et aidant vos familles. Des intercesseurs.
Oui, absolument.
Mais en tout cas, merci.
Ils sont tous les trois là-haut pour nous.
Oui. Et je suis sûre qu'ils en aident beaucoup plus. En tout cas, un grand, grand merci à toutes les trois. Merci pour votre livre, encore une fois.
Merci Sandrine, de nous avoir invités.
Et puis, nous restons en union de prière, voilà, pour que tout ce que vous allez pouvoir dire, vivre, faire, les témoignages que vous allez continuer à offrir, puissent faire revivre et redonner de l'espérance à tous ceux qui traversent cette douleur du deuil. Merci beaucoup en
tout cas.
Merci Sandrine. À très bientôt. Merci.
Merci Sandrine. Merci.
Au revoir.
Au revoir.